Bienvenue dans ce premier DigiDocTalks de la saison 2024-2025. DigiDocTalks un peu particulier, organisé donc par le service des études doctorales de l'Université de Lyon, puisque à plusieurs titres. Donc le premier, c'est parce que nous l'avons ouvert, cet événement, à plusieurs collèges, autres collèges doctoraux. Donc parmi nos auditeurs, nous avons également des doctorants de Lille, de Rennes et de toute la France. Deuxièmement, c'est que là, on n'a pas forcément, enfin, on va écouter Mélanie Porte, donc docteur en sciences sociales, c'est ça,
Oui,
et
en sociologie.
en sociologie et consultante chercheuse chez Tenzing, qui va voilà nous présenter son parcours et peut-être aussi justement Tenzing, un cabinet de consultation. De conseils, voilà, qui embauche des docteurs et pourquoi pas vous prochainement. Voilà. Donc sachez que ce DigiDocTalk s'est enregistré, donc pour après en faire un podcast que vous pourrez retrouver sur le site de l'Université de Lyon sans problème. Vous avez, alors c'est une première aussi, on l'a organisé non pas sous forme de réunion, mais sous forme de webinaire. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser le mode conversation ou, alors, je vois questions-réponses, mais on va peut-être privilégier le chat, la conversation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à lever la main ou le poser voilà, dans le chat. L'idée, c'est que d'avoir une courte présentation de Mélanie, de son parcours, et après d'avoir plutôt un système de dialogue entre nous. Voilà. Donc, merci Mélanie de vous être libérée en ce 1er octobre. Donc, je vais vous laisser la main pour voilà pour vous présenter et puis présenter votre parcours, le métier, le conseil en général et puis Tenzing en particulier. Voilà.
Merci à vous
Merci.
pour cette opportunité de présenter mon parcours, le cabinet, et puis pour pouvoir en fait aider les doctorants en cours de thèse dans leur réflexion sur la suite, et puis pourquoi pas même d'anticiper en fait la suite dès maintenant. Alors bonjour à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, me poser des questions, que ce soit à travers le chat, mais même oralement, hein, je vais essayer de faire court, et l'idée, du coup, comme le disait Madame Isoard, c'est de vous répondre à toutes vos interrogations. Donc n'hésitez pas. Est-ce que déjà, avant que je commence, il y a des premières questions, éventuellement?
Est-ce que vous entendez tous, vous voyez, est-ce que vous voyez la présentation affichée, ce qui était, parce que le PowerPoint qui est partagé? Merci.
Super.
Très bien. A
Alors.
priori, ils voient et nous entendent. C'est très bien.
Ok, bon, super. Donc alors effectivement, Mélanie Porte, hein, donc je suis docteur en sociologie depuis décembre 2021. Ça commence à faire. Et j'ai intégré donc le cabinet Tenzing il y a maintenant 2 ans, donc en septembre 2022, en tant que consultante chercheuse. Donc je vous dirai 2 mots de mon métier actuel. Avant ça, je vais revenir sur mon parcours. Et puis, je pourrais aussi vous parler du coup de l'activité du cabinet et dans quelle mesure, en fait, les docteurs et doctorants peuvent intéresser, en fait, le cabinet en termes de recrutement. Ça vous va. Donc, du coup, en fait, en termes de... Oui? Non? Vous voyez toujours la présentation?
Oui, on voit.
Oui. Donc alors, pour faire rapide donc mon parcours. Alors donc je suis docteur en sociologie. En fait, j'ai fait ma thèse sous convention CIFRE avec l'entreprise Danone. Donc j'étais rattachée au laboratoire de Toulouse, le CERTOP, j'étais au niveau de l'axe santé alimentation sous la direction de Jean-Pierre Poulain et Laurence Thibert. Et donc voilà, j'ai fait ma thèse dans le domaine de l'alimentation en sociologie. Ma thèse portait donc pour l'entreprise, l'objectif c'était vraiment de développer une méthodologie d'évaluation des impacts socioculturels de leurs produits qu'ils orientaient en fait sur une stratégie santé par l'alimentation. C'était aussi la mission du groupe, puisqu'elle est devenue, puisque l'entreprise Danone est devenue société à mission entre-temps. Donc ça, c'était un petit peu l'objectif opérationnel. Et du point de vue de la recherche, l'idée, c'était plutôt d'étudier en fait les processus de changement dans l'alimentation, de saisir un petit peu le rôle de l'entreprise dans ces changements, dans les changements alimentaires, et notamment plus précisément dans quelle mesure finalement un produit alimentaire, donc là en l'occurrence positionné sur la santé, vient en fait à des effets sur les pratiques, les représentations et les interactions, en particulier au sein des familles, puisque là le produit qui a servi qu'à l'étude était un produit à destination de l'alimentation infantile et familiale. Donc voilà, j'ai étudié un petit peu les changements que ça pouvait générer, les micro-changements micro-sociaux que ça pouvait générer au sein des familles. Donc voilà pour le doctorat. J'ai soutenu ma thèse en 2021, fin 2021. Après le contrat CIFRE, en fait, j'ai continué avec un contrat d'ingénieur de recherche au CNRS. Et avant cela, en fait, j'étais pas du tout dans la sociologie. J'ai changé un petit peu de parcours. J'ai été responsable qualité et production dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé 3 ans sur, donc j'avais une formation classique en DUT génie biologique dans le domaine de l'agroalimentaire, suivi d'une licence pro qualité sécurité des aliments. Et puis j'ai travaillé 3 ans dans ce domaine, ce qui m'a inspiré pas mal de réflexions sur ce que j'ai découvert après s'appeler en fait les systèmes d'action concrets, les problématiques au sein des organisations, et donc les systèmes agroalimentaires et comment en fait les acteurs interagissent et travaillent ensemble. Donc voilà, ça m'a inspiré pas mal de réflexions sur ce plan-là, donc j'ai voulu un peu prendre du recul et j'ai intégré un master en sciences sociales appliquées à l'alimentation à Toulouse, qui a ensuite débouché sur le stage au sein de Danone et puis l'opportunité d'une thèse. Donc voilà un petit peu pour mon parcours précédant l'expérience en conseil. Et ce qui m'a amené en fait dans le conseil, je finirai là-dessus et après je prendrai déjà des premières questions s'il y en a. Donc si je vais un petit peu résumer ce qui m'a amené dans le conseil, en fait c'est un peu un cheminement. Parce qu'en fait, déjà au travers de mon expérience chez Danone, j'avais des interactions plus ou moins directes ou indirectes en fait avec des cabinets ou même des instituts d'études hein, de type Kantar, enfin, j'en cite d'autres, mais principalement Kantar. Donc j'avais des interactions avec ce genre de structure, avec plus ou moins d'appréhension en tant que membre de l'entreprise, parce qu'il y a une idée de finalement faire à un acteur externe ce que on pourrait faire nous en interne, c'est-à-dire qu'il y a des ressources, il y a des compétences, et finalement on externalise le travail. Donc c'est un petit peu la vision que j'en avais, mais pour autant j'avais un petit peu décelé que le conseil avait vraiment une place en fait dans l'écosystème autour des entreprises. Et j'avais trouvé ça intéressant, tout en ayant un petit peu une vision critique, mais dans le sens non neutre du terme, parce qu'effectivement c'était un acteur externe et que il y avait cette question des compétences internes qui n'étaient pas du coup mobilisées, qui pouvaient se retrouver frustrées en fait de pas pouvoir s'investir sur les sujets à fort intérêt pour la stratégie de l'entreprise.
Venant d'être déconnecté avec Mélanie. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter. Allô, allô. Ah. La revoilà. Oui, nous avons été déconnectés.
Tous ? Oui, on a tous été déconnectés, ça concerne.
Non, il n'y a que vous.
D'accord, je ne sais plus où j'en étais. oui, j'en étais à la découverte du du monde du conseil.
Voilà.
Enfin, la découverte, les premières interactions avec le monde du conseil. Bon, voilà, pour dire que le monde du conseil ne m'était pas complètement inconnu. Pour autant, ça commençait à m'intéresser, mais sans pour autant oser y aller. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai voulu trouver plutôt du travail en R&D interne à des entreprises, soit du secteur alimentaire ou de la santé. Puis, monter aussi ma propre entreprise. Et puis, finalement, ouais, voilà, dans les 6 mois qu'on suivit la soutenance de la thèse, il y a une offre, en fait, du cabinet Tending qui a été diffusée au sein des différents laboratoires et qui du coup en plus recherchait un poste de consultante ou consultant chercheur, donc pour vraiment mener un travail de R&D interne dans l'entreprise en vue de développer les savoir-faire du cabinet sur des sujets qui les préoccupent. Et donc une vraie activité de R&D qu'on peut dire du coup qu'on peut catégoriser comme une R&D sociale, dans le sens où on porte où c'est une R&D qui porte sur des sujets des sciences sociales en fait, hein, et non pas des sujets plus techniques qui relèveraient de la chimie ou même de l'informatique. Ça pourrait, par exemple, de la data ou ce genre de choses. Non, c'est pas le cas. C'est de la R&D, comme on dit, sociale, qui relève des sciences sociales. Et donc, voilà, il y a cette création de postes que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc après, pour faire le lien avec le cabinet et les possibilités de recrutement, c'est quand même assez rare d'avoir de la R&D sociale, qui plus est au sein d'un cabinet de conseil. Donc c'est pas pour l'instant, voilà, c'est un pôle qu'on développe, mais qui ne requiert pas de recrutement là dans l'immédiat. Mais par contre, vous pouvez tout à fait quand même vous y intéresser, essayer de suivre en fait les offres si le cabinet vous intéresse, parce que ça peut tout à fait arriver. C'est juste que là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et je pourrais répondre à vos questions sur plutôt du coup le métier de consultant classique, puisqu'il y a aussi, même s'ils n'ont pas pu être là, elles n'ont pas pu être là avec moi aujourd'hui, des consultantes docteurs qui exercent en tant que consultantes sans activité de R&D. Je peux commencer à prendre déjà des premières questions si vous en avez.
N'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat, je pourrais me faire votre porte-voix, si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas. Il faut qu'il y en ait. C'est toujours la première question qui que ça vienne. Alors, nous avons une question de Sharaf qui. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Je voulais savoir quel poste un jeune docteur peut occuper dans une boîte de consulting. Eh ben justement, il y a divers postes.
Une transition.
Voilà.
Il y a soit, comme je le disais, consultant chercheur. Donc là, ça concerne plutôt Tending, parce que comme je le disais, c'est assez rare dans les cabinets de conseil, en fait, d'avoir de la R&D, d'investir potentiellement à blanc sur des recherches sur des questions, voilà, qui peuvent ne pas aboutir, en fait, qui n'aboutissent pas nécessairement à des solutions commercialisables et qui permettent de vendre en fait derrière. L'idée, c'est plutôt de développer les connaissances, les savoirs et savoir-faire du cabinet. Mais c'est vrai que c'est assez rare au sein des différents cabinets, pour pas dire inexistant. Je sais pas dans quelle mesure c'est une première du fait là chez Tending. Enfin, en tout cas, chez Tending, c'est une première, mais je veux dire une première en tant que cabinet de conseil de proposer ce genre de poste. Mais j'aurais tendance à dire que si, c'est une première. Par contre, voilà, en tant que jeune docteur, après, on peut complètement être consultant. Consultant, ça veut dire en fait gérer des projets, gérer des missions pour le compte de clients, donc suivant des problématiques bien souvent définies par les clients, mais que, en tout cas, ça dépend des cabinets, mais chez Tenzing, on redéfinit éventuellement la problématique pour éventuellement la décaler ou pour mieux y répondre. Donc il y a ce petit travail de décalage qui est quand même assez bien connu en thèse, puisqu'on, selon le, selon dans quelles conditions on fait sa thèse, mais en tout cas au moins quand on la fait en CIF ou quand elle est financée et que l'on a des attentes d'autres parties prenantes que d'autres partenaires que les seuls partenaires académiques, ou même en fait dans le cadre d'une thèse constituée seulement de partenaires académiques, on peut être à un moment donné amené à tenir compte des attentes des différents partenaires ou des différents membres du projet de recherche duquel relève notre thèse et donc à effectuer éventuellement des décalages, à reproblématiser, etc. Donc ce petit travail, par exemple, il existe dans les missions de conseil, donc c'est un premier petit travail. Et puis donc voilà, gérer les projets, c'est-à-dire mener à bien la mission en fonction de livrables qui auront été prédéfinis, d'objectifs qui auront été prédéfinis en amont lors d'une phase de cadrage avec le client et au sein du cabinet en s'appuyant sur des expériences aussi, d'autres expériences de consultants qui auraient travaillé sur des sujets similaires ou s'en rapprochant. Avec une partie, voilà, il faut toujours avoir quand même un certain esprit critique pour ne pas prendre pour argent comptant les discours en fait des acteurs. Donc il y a cette, je trouve en tout cas qu'il y a cette compétence qui est valable en sciences sociales, enfin qui se construit dans le cadre d'une thèse en sciences sociales, qui du coup est très utile en cabinet de conseil, l'esprit d'analyse, peut-être aussi différentes méthodes. Moi, par exemple, j'ai fait de l'analyse statistique, j'utilise des techniques comme l'analyse des correspondances multiples qui est pas forcément à la base utilisée par le cabinet. Donc c'est apporter aussi d'autres outils, d'autres méthodes. Voilà. Et donc voilà, réaliser, enfin finalement le métier de consultant au même titre que d'autres diplômes peuvent le faire, avec peut-être sa patte, ou en tout cas les compétences développées en doctorat sont utiles en mission de conseil. Je sais pas si je réponds bien à la question.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est clair. Très bien. Donc il y avait une question de Tanguy sur justement, il pense que pour lui c'est ce genre de poste n'est pas si rare que ça, puisque c'est même un business model avec en particulier le crédit d'impôt recherche que peuvent mobiliser les entreprises quand elles emploient des jeunes docteurs ou des doctorants en chiffres pour justement mener à bien leur problématique de recherche R&D. Pas forcément le CIR, on ne va pas le mobiliser dans le cadre justement d'un docteur qui fait des actions de conseil, mais pour des actions comme vous faites de R&D, voilà, c'est vrai que le CIR est aussi un levier.
C'est une aide en particulier en plus pour les petites entreprises, donc ça dépend de la taille du cabinet. Donc c'est un petit cabinet, on est 55, donc effectivement... On mobilise ce dispositif qui en soi rembourse une part des dépenses éligibles, mais c'est pas si énorme. Je parlerai pas de business model hein, parce qu'il n'y a pas de rentabilité en fait, enfin de rentabilité ou même de bénéfices. Alors, bénéfice, non, il y a même la totalité des dépenses n'est absolument pas... alors, quand je parle de dépenses, c'est même juste la dépense du salaire n'est absolument pas prise en charge en totalité. Donc, je ne parlerai pas de business model. Et voilà, après, tant mieux si c'est pas si rare que ça. Mais parce qu'après, bon, il y a deux choses. Il faut aussi distinguer... effectivement, ça j'en ai déjà entendu parler, certains cabinets qui usent en fait de ce dispositif sans réellement faire de la R&D, enfin qui vont après coup essayer de rentrer certaines actions dans ce dispositif. Nous là vraiment l'idée c'est vraiment de réaliser de la recherche et qu'elle soit profitable au cabinet, mais du point de vue des connaissances et d'ailleurs le CIR n'était pas du tout pensé de prime abord, c'est venu après. Donc voilà, après, voilà, vraiment, le poste consultant-chercheur, c'est intéressant à creuser. C'est quand même assez rare, quoi. En tout cas, au moins dans des petites structures, si je devais préciser, du coup, dans les petits cabinets, quoi.
Merci.
Après, il y a aussi des cabinets qui sont plutôt d'ailleurs des instituts d'études, qui effectivement vendent aussi, qui peuvent vendre aussi des missions de recherche comme l'agrément CIR. Donc nous, c'est aussi le cas là, c'est une activité qu'on essaie de développer, qu'on commence là à lancer. C'est-à-dire qu'on a l'agrément CIR pour pouvoir, on a eu l'agrément CIR par le MESRI pour pouvoir nous en fait proposer vendre des missions de recherche aux clients. Aux entreprises clientes qui ont un sujet qui nécessite en fait qui ne trouve pas de réponse dans la revue littérature et qui nécessite de mener une recherche pour étudier un cas particulier ou pour aller un peu plus loin sur une question et qui du coup est éligible aussi, ouais.
Alors on a plusieurs questions. Alors, des questions et aussi éventuellement témoignages, retour d'expérience de la part de Guillaume, qui est doctorant en histoire de l'art en 5e et dernière année, et qui a créé son entreprise de conseil en 2022 pour les industries de la mode et culturelle, mais qui éprouve des difficultés à accéder aux interlocuteurs au sein des entreprises. Et du coup, il passe par des cabinets de recrutement. Alors, cabinet de recrutement quel type de recrutement? Guillaume, est-ce que vous pouvez préciser? Si vous pouvez prendre la parole, ça sera encore mieux.
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Oui.
Oui, très bien, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon témoignage. Je passe par des cabinets de recrutement de la mode et des industries du luxe, parce que l'accès en direct, ou même par personne interposée, ne fonctionne pas. Quand on est une jeune société.
Oui, il y a
une... Clairement, par exemple, on peut se dire spontanément, tiens, je vais créer une entreprise et je vais travailler pour LVMH. Mais en fait, on ne peut travailler pour LVMH qu'en produisant 3 bilans successifs et que dans ces bilans soit inscrit tel montant. Si on fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, on ne travaille jamais pour LVMH. Donc il y a comme ça ce que j'appellerais volontiers des faux amis dans une économie qui est extrêmement pyramidale. Et du coup, puisqu'elle est pyramidale, elle est extrêmement difficile à percer. C'est en tout cas l'expérience que moi je fais après 3 ans d'activité comme chef d'entreprise et doctorant.
Mmh. Bah, écoutez, c'est très intéressant comme témoignage. Moi, du coup, j'ai pas le temps de me confronter à cette problématique. En tout cas, du côté de l'industrie agroalimentaire, bon, finalement, il n'y avait pas eu le budget, mais j'avais juste du fait d'interlocuteurs au sein de l'entreprise, et on devait lancer une étude en partenariat avec une association également. Et juste du fait des interactions avec des interlocuteurs effectivement connus d'avant, hein, mais Ça, voilà, il y a eu une problématique de budget, mais ça semblait pas du coup rejoindre votre problématique. Mais c'est intéressant, c'est intéressant à partager effectivement.
Du coup, ça rebondit sur ça donne peut-être une première réponse à la première question de Zined, qui demandait est-ce qu'il est possible de faire du consulting pendant les 3 années de doctorat. A priori, Guillaume est un exemple où que oui, puisqu'il est en doctorat et il fait monter son nom. Alors oui, vous êtes tout seul, je suppose, dans l'entreprise pour voilà.
Là, je fais rentrer un associé.
D'accord. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Donc après, il y a toutes les démarches, justement. C'est toute une démarche entrepreneuriale. Voilà, donc faut s'appuyer aussi sur, justement, en tant que doctorant, vous avez la possibilité au sein de vos universités, de vos écoles doctorales, de votre collège doctoral, d'avoir justement des formations, que ce soit sur l'entrepreneuriat, pour travailler sur la question de proposition de valeur, comment je markete mon offre, comment je vais voir des, voilà, je la propose aux clients, et également des formations justement sur ça, j'en viens à la question de Kelly, sur les, justement pour découvrir toutes les facettes justement des métiers dans le privé, puisque Kelly se pose les questions des compétences et connaissances à acquérir pour un scientifique qui n'a aucune expérience en entreprise. Donc c'est vrai que c'est un vocable, il y a un vocabulaire certes, et puis après justement faut aller, n'hésitez pas à aller voir les formations que peuvent proposer vos écoles doctorales, votre collège doctoral aussi, par exemple, qui peut vous proposer aussi des formations à la connaissance de l'entreprise. Nous-mêmes, sur Lyon-Saint-Étienne, on fait ce qu'on appelle des doctoriales. Donc là, c'est des challenges, justement, pour en groupe pluridisciplinaire, des doctorants qui sont confrontés à des challenges, à des questions réelles d'entreprise, que ce soit sur le thème d'innovation ou prochainement sur le management aussi. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Voilà. Mais en termes de, justement, la deuxième question, je remonte un peu dans le fil de la conversation, désolé. C'est en lien. La deuxième question de Zinette, c'est: est-ce que les boîtes de conseil demandent une expérience lors du recrutement?
Alors, ça dépend, en fait, ça dépend, hein, parce qu'il y a des offres pour consultants juniors, des offres pour consultants dits seniors ou plus expérimentés. En tout cas, chez Tending, du coup, j'en profite pour peut-être partager le support.
Après, nous aurons Opportun qui a levé la main. Il laissera la main, justement.
Chez Tending, en fait, c'est une société à mission. Il y a une raison d'être, hein, qui est promouvoir la réussite scolaire et professionnelle des personnes faisant l'objet d'inégalités sociales. Donc ça, c'est finalement pour faire, pour dire que, généralement, en fait, dans les cabinets de conseil, les recrutements se font sur école de commerce. Donc effectivement, des personnes, je rebondis du coup sur une des questions sur le concept, le vocabulaire d'entreprise. Oui. Donc ils sont très rodés à ça. Mais finalement, Tending se recrute justement dans les universités, sur des métiers des métiers très différents, des univers très différents. Ça peut être de l'ESS, donc c'est encore d'autres vocables, d'autres préoccupations. Et il y a un temps, en fait, de formation, d'appropriation, d'accompagnement pour, en fait, s'approprier le métier du conseil. Donc oui, en fait, faut bien regarder. C'est sûr que en fait, si par exemple il y a une offre de consultant senior mais sur une thématique, parce que par exemple la particularité de Tending, c'est d'être d'avoir une volonté d'être généraliste tout en étant sur quand même, je viens, lui thématique stratégique. Je dis 8 alors qu'il n'y a que 7. 7 thématiques stratégiques. Avant, il y en avait 8. Donc vous voyez, il y a notamment la transformation responsable. Donc moi, par exemple, la R&D, il y a vraiment deux sujets stratégiques. C'est la transformation responsable et la transformation des organisations. Et du travail. C'est vraiment les deux axes stratégiques en R&D qui ont vocation à développer les savoirs et les savoir-faire sur ces thématiques-là, en vue ensuite d'être utilisées en mission. Mais on a d'autres thématiques, il y a le management, l'expérience opérationnelle, le digital, l'innovation, l'expérience client, définir et travailler la vision stratégique. Donc ça, voilà, ça peut être des thématiques soit avec lesquelles vous avez soit peu de connaissances ou peu d'appétence, hein, mais c'est pas un souci. En fait, l'idée, c'est de, même si on a par exemple un sujet d'expertise qui peut être, je sais pas, éventuellement la RSE, la transformation responsable, ou le management, ou éventuellement, je sais pas, l'innovation digitale, enfin selon vos sujets de thèse, il faut mettre de côté, savoir aussi mettre de côté son expertise pour s'ouvrir à d'autres thématiques, et c'est tout l'enjeu. En fait, le consulting peut, c'est surtout de la gestion de projet, et la connaissance fine de la thématique abordée n'est pas indispensable. s'acquiert au fil du temps. En fait, c'est, elle n'est pas du tout indispensable. L'idée, c'est plutôt d'être un bon navigateur au gré de, pour mener à bien la mission. Donc, je ne sais plus là si je réponds. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'être multimétier. Et pour en revenir aux années d'expérience, il y a certaines offres qui peuvent, par exemple, être dans le consulting, mais au sein de cabinets qui vont être spécialisés, par exemple, je ne sais pas, sur la RSE, et où là, vous pouvez très bien avoir un sujet de thèse. Vous pouvez avoir, certes, pas du tout d'expérience en consulting, mais avoir une certaine expertise sur le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas à candidater. Bien souvent, on ne peut pas cocher toutes les cases sur une offre. Et vos années en fait d'expérience scientifique ou technique et aussi d'échange avec les parties prenantes ou de réflexion, de lecture, etc. autour de la thématique du poste peuvent très bien être perçues au même niveau que quelqu'un qui aurait une expérience très pratique du métier, mais sur d'autres sujets ou même sur ce sujet-là. Enfin voilà.
Juste un petit rappel, votre expérience de thèse, voilà, c'est une première expérience professionnelle. Donc, à valoriser en tant que telle, de gestion de projet, de communication, de recherche de financement s'il y a eu. Donc, voilà, c'est pas, c'est à valoriser.
Et de reformulation, enfin, aussi, il y a tout un travail aussi de devoir. Se frotter à cet exercice de reformuler. Alors, est-ce qu'on peut parler de pédagogie? Oui, pour certains, je pense que vous pouvez même aller jusqu'à dire qu'il y a une expérience de pédagogue, quoi. Enfin, il y a quand même cet exercice assez récurrent de reformuler, de s'adapter aussi, d'adapter son langage. Donc, en fait, si vous avez été capable de le faire pendant la thèse, vous serez capable de le faire avec un nouveau langage à apprendre en cabinet ou en entreprise.
Il y a juste une différence de timing, c'est tout. Voilà. Oui. Un client n'attendra pas 3 ans pour avoir une réponse.
C'est vrai que c'est un bon point que vous avez soulevé, parce que moi, du coup, par expérience, c'est ce qui m'a le plus... Et pourtant, j'étais préparée. Enfin, je veux dire, j'avais travaillé 3 ans avant en entreprise. Je m'étais toujours dit, alors bon, quand je me suis lancée dans la thèse, que voilà, je voulais... voir la thèse comme un projet parmi d'autres et ne pas me laisser... happé par l'éventuel temps qui dure pour mener à bien toujours mener à bien et plus loin la recherche. En intégrant le cabinet, c'est vrai que ce qui a été le plus difficile, c'est ce timing qui quand même se resserre. Et donc, il faut rogner sur certaines choses qu'on a quand même envie d'aller creuser ou qu'on pense devoir creuser et absolument maîtriser pour être en mesure de faire le métier, le job, alors qu'en fait, pas forcément. C'est plutôt un métier de navigateur. Donc faut être un peu solide sur ses appuis, sur certains appuis, mais c'est pas indispensable si on navigue à vue.
On va prendre les questions avec les mains levées, parce que même si elles sont virtuelles, elles sont peut-être lourdes à garder levées. Donc il y avait une question au point. Je crois, c'est ça. Allô?
Je vous entends pas.
Allô? Si au portail n'est pas là, on avait une question de Tanguy.
Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Alors, pour me présenter très rapidement, je suis docteur en sociologie aussi. J'ai soutenu en 2021. Je suis actuellement responsable recherche et développement dans un cabinet conseil, d'où ma question sur le business model. Voilà. Je suis basé à Paris. J'ai fait ma thèse à Lyon 2. C'est comme ça que je reçois les informations à Lyon 2. Et de l'ED 483 entre autres. voilà. C'est à la fois un retour d'expérience et en même temps une question, parce que je vous rejoins totalement, Madame Isolard Martin, sur effectivement le fait que la thèse, c'est une expérience professionnelle. Et je pense que c'est important que les doctorants, doctorantes qui nous écoutent, qui vont bientôt soutenir leur thèse et qui sont jeunes, potentiellement de futurs jeunes docteurs, refusent tout poste en dessous d'un statut de consultant senior. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas un cabinet conseil avec un statut de consultant junior. C'est la thèse donne une qualification qui est assez importante et qui mérite d'être valorisée. Et qui doit être valorisée. Et d'ailleurs, elle est payée cher par l'entreprise. Et si on va juste s'exporter un peu ailleurs en Belgique ou en Suisse, elle est payée bien plus qu'en France. Donc, n'allez pas vous brader sur le marché du travail. D'autant plus, et là j'insiste parce que j'en ai bénéficié, le statut de jeune docteur, c'est le salaire x2 qui est pris en charge. Donc, le salaire est largement pris en charge par le crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on ne coûte rien à l'entreprise et même on lui rapporte de l'argent. Le seul fait que vous existiez rapporte de l'argent à l'entreprise. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez même pas besoin de travailler. Le fait que vous soyez là, vous rapportez de l'argent. Donc, c'est assez important que, il me semble de l'avoir en tête et de le rappeler parce que, et puis d'être dans un rapport de force, de négociation salariale quand vous allez passer des entretiens, etc., qui vous mettent en confiance parce que voilà. Alors, je suis responsable R&D dans un cabinet conseil, je devrais pas le dire, hein, parce que, moi, je paye cher la main d'œuvre, mieux c'est. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai que c'est un business, modèle, c'est qu'on a des cabinets conseils qui littéralement utilisent les jeunes docteurs et docteureux comme de la chair à canon. C'est-à-dire on va les utiliser pendant 2 ans et puis de toute manière on va tellement leur mettre la pression qu'ils vont partir d'ici 2 ans. Je l'ai vu et je l'ai constaté dans certains cabinets conseils. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et je pense que c'est important de rappeler ces éléments-là parce que effectivement aujourd'hui il faut choisir correctement son entreprise en ayant conscience de ces enjeux-là. Et pour moi c'est un véritable enjeu, surtout quand on a eu des débats au sein de l'université sur la santé mentale des docteurs, des jeunes doctorants, etc. etc. Voilà, le monde de l'entreprise est aussi un monde violent.
Je peux rebondir opportun, je peux me permettre de répondre?
C'est Tanguy là, qui parlait.
Ah pardon. Excusez-moi.
Il n'y a pas de souci.
L'écran, je vois pas tout.
Oui, il n'y a pas de souci.
Alors en fait, il y a quand même un petit point de précision. Alors effectivement, ces pratiques-là, bon, je les connais mal parce que du coup, je les expérimente pas et c'est vrai que ça faisait partie des points que je voulais creuser, dont j'ai entendu parler, et bref, ce serait intéressant que je les creuse pour en être davantage consciente. Moi, à mon sens, quand même, je voudrais juste ajouter deux petites précisions. C'est que, en fait, oui, les deux premières années, donc déjà, ça concerne les deux premières années où le salaire du jeune docteur est totalement pris en charge par le dispositif CIR. Alors bon, le fait qu'il soit pris en charge x2 et que ça représente du coup un bénéfice, je l'avais pas en tête. Pour moi, on est même à 90% pris en charge plutôt qu'à 100%. Et pour en fait être en contact avec un cabinet là qui nous accompagne sur du coup le dispositif CIR et sur le compte rendu en fait de rapport sur les activités qu'on a, etc., et le temps qu'on y passe. Et qui est quand même assez, enfin il y a des critères en fait pour être éligible au CIR. Donc en fait un docteur qui ne pratique pas, enfin qui est certes embauché en CDI, mais qui ne pratique pas une activité de recherche, n'est absolument pas éligible au CIR. Enfin son activité n'est absolument pas éligible au CIR. C'est-à-dire que pour être éligible au CIR, il faut à un moment donné écrire un rapport, une fiche qui fait quand même, enfin là moi en l'occurrence elle fait 20 à 30 pages. Dans laquelle on décrit l'action, on décrit notamment l'élément nouveau qu'on a développé par rapport à la littérature existante. Donc c'est quand même, enfin nous en tout cas on le fait très sérieusement, on est suivi pour ça et on est accompagné. Et donc en fait je sais pas comment s'organisent ces fameux cabinets-là et comment après ils arrivent à justifier de faire passer du coup tous les docteurs dans ce dispositif en fait, parce que vraiment, enfin, il faut quand même avoir, faut à un moment donné écrire presque 8 pages sur la littérature existante, dire en quoi c'est nouveau en fait ce qu'on a développé, montrer qu'il y a quand même eu une expérimentation. Bon, après, les termes sont très science du vivant. On a du mal en sciences sociales à se faire à ces termes-là. C'est pas du tout dans notre langage les termes qui sont utilisés, mais voilà, on voit très bien ce que ça signifie quand même, expérimentation. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas eu d'entretien de mener, d'observation, de focus group, etc., qu'on n'a pas eu besoin de mener d'enquête. On n'est absolument pas dans une démarche éligible. On n'a pas eu besoin d'aller enquêter en fait pour apporter des éléments de connaissance nouveaux. Donc, on n'est pas éligible. Enfin, en tout cas, ouais, je sais pas dans quelle mesure on peut déroger à ça.
Alors, effectivement, on déroge pas à ça. Par contre, là où il y a un business model, pardon, je me permets de rebondir, parce que, alors, par contre, je rejoins totalement ce qui a été dit sur est éligible seulement les jeunes docteurs qui pratiquent une activité R&D au sein de l'entreprise. Ça va de soi. Cela étant dit, là où il y a un business model, c'est de faire en sorte que les missions de conseil soient une manière de faire le terrain de la recherche. Et c'est là où parfois la frontière peut être un peu floue ou la limite un peu trouble. Le fait est, c'est que dans le scope du crédit de recherche, crédit d'impôt recherche, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. En sciences humaines, les méthodologies de recherche-action, les méthodologies d'enquête, etc., sont généralement assez couramment usitées dans les cabinets de conseil, en stratégie et organisation, etc. Donc c'est facile de relier, si vous voulez, sur les méthodes, dès lors qu'il y a un élément d'incertitude qui est effectivement un élément clé. Il faut justifier cet élément d'incertitude. Donc il faut construire un projet de recherche. Voilà, c'est ça n'importe quel docteur et docteur E, c'est le faire. Donc mais par contre effectivement après il faut justifier de la matérialité de la recherche, etc. Donc il y a deux enjeux, mais le fait est c'est que ça aujourd'hui c'est dans les compétences clés de n'importe quel doctorant et doctorante qui a construit son projet de thèse, son projet de recherche, et voilà.
Oui, d'accord. Et je comprends, et je me dis aussi que du coup, si le docteur ou doctorant et doctorante se retrouve dans cette situation, il peut, alors que ça n'était pas convenu au départ et que finalement il est utilisé, il peut vite s'en rendre compte. Du coup, enfin, à un moment donné, s'il doit construire le projet et répondre aux critères du CIR, à mon avis, à un moment donné, ça se voit quand même qu'on fait pas juste du consulting et que du coup, on est en train de
nous... Absolument. Je me permets juste de donner un exemple très concret que je sors de mon expérience, que je suis sorti d'un cabinet de conseil récemment. J'ai intégré ce poste-là que j'occupe en septembre, et on est plusieurs docteurs à être partis de cet ancien cabinet de conseil. Pourquoi ? Parce que on nous a demandé de remplir des fiches mission, c'est-à-dire d'aller voir les missions des consultants et voir celles qui pourraient correspondre éventuellement à de la R&D. Ce qui en soi est pas choquant. Mais quand ils se rendaient compte qu'il n'y en avait pas assez, on nous disait de faire preuve d'imagination sur la construction des ponts. Donc concrètement, on nous incitait à faire de la fraude. Donc il y a des cabinets, je ne dis pas le contraire, le cabinet où je suis, et c'est moi qui pilote la démarche, donc je peux dire qu'elle est rigoureuse et qu'effectivement on fait les choses sérieusement et qu'on valorise réellement la recherche. Je pense que c'est aussi le cas chez Tanzim, de ce que j'entends et de ce que je comprends, mais par contre c'est pas toujours le cas. Donc c'est là où on peut être mis parfois en difficulté dans les approches. Et il y a des cabinets, d'où le business model, comme je pense au groupe FI, qui est devenu F Initiative, je crois, qui accompagne justement les cabinets et les entreprises dans la valorisation au crédit d'impôt recherche. Eux, ils sont financés sur le montant que valorise l'entreprise au crédit d'impôt recherche. Donc c'est pour eux, plus ils déclarent, plus ils arrivent à faire déclarer leurs clients, plus ils rapportent dessous. C'est leur business model. Donc c'est rentable comme système.
Ouais, non, mais c'est intéressant, puis c'est bien d'avoir ces points de vigilance, effectivement, en tant que docteur et doctorant. Et effectivement, juste, et votre première, vos premiers éléments, là, sur le fait d'accepter, consultant junior, enfin, de pas accepter, en fait, des postes de consultant junior en tant que docteur. Effectivement, et même, ici, là, les deux docteurs, eux, que j'ai en tête, qui sont consultantes, ne sont pas juniors et ne sont pas au même salaire que les juniors. Elles sont à mon salaire aussi. Enfin, on est valorisé. Le doctorat est valorisé et du coup, il y a un certain salaire. Le salaire qui va avec est valorisé aussi. Et par contre, c'est vrai que la question avec sur un doctorant, si par exemple un doctorant venait à postuler, je pense que la question se poserait. Voilà, elle s'est jamais réellement posée en fait, parce qu'en fait les doctorants qu'on a, on les a en chiffres, on a deux contrats chiffres là qui se terminent, qui étaient destinés à, enfin qui sont destinés à réfléchir sur le modèle d'entreprise de Tenzing et que sa raison d'être tournée autour de la réussite professionnelle, et donc qui porte sur la mobilité sociale en entreprise entre autres. Mais sinon, c'est vrai que voilà, si un doctorant venait à postuler, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait être considéré autrement que consultant junior, mais je m'avance peut-être. Voilà, pour être très transparente.
Merci pour cet échange de point de vue et d'expérience. Alors, est-ce que opportun est libre pour qu'on libère sa main levée. Je crois qu'il y avait un problème de micro, il n'était pas activé, mais est-ce que là, non, toujours pas. Mathilde, je vous laisse. Enfin, je vais reprendre peut-être des questions qui sont dans le chat. Donc, à mon avis, Manon, j'espère que la slide qui est présentée répond à votre question sur justement quel type de projet ça peut être géré, quel type de questionnement peuvent être amenés à gérer des docteurs ou des questions qui sont amenées à être posées à un cabinet de conseil. J'espère que la slide qui est présentée vous convient ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Manon, je m'adresse à Manon. Qui avait posé une question dans le chat. A priori, oui, elle aimerait des détails concrets. Quel type de détails? Savoir si je prends la question sur l'expérience client du Crédit Agricole, c'est comment on s'y prend, c'est ça? Quelle démarche un docteur peut employer, c'est ça?
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien. Oui,
bonjour. Merci. Oui, du coup, c'était plutôt pour comprendre un peu la réalité du métier concrètement, parce que j'ai un peu de mal à l'imaginer. Par exemple, oui, pour prendre un des exemples sur la slide, qu'est-ce que vous allez faire pour mener à bien ce projet? Enfin, quelles sont vos missions en fait?
Ouais. Oui. Alors, je comprends que ce soit éventuellement flou à première vue, même si une fois qu'on est immergé, c'est beaucoup plus palpable et on se rend assez vite compte en fait de ce que ça signifie. Là, en fait, les types de missions, typiquement par exemple, si je prends la première mission, définition de la stratégie micro-entreprise indépendante. C'est vraiment la mission. La mission, ça veut dire que son objectif, son ambition finale, sa finalité, c'est d'avoir défini une stratégie micro-entreprise indépendante. Et en fait, je vais répondre de cette manière-là, mais n'hésitez pas si ça c'est pas du tout clair pour vous. Ça va signifier que par exemple, on va avoir établi avec le client, mais déjà en amont, au travers de ce qui va être appelé une propale. Une démarche, un calendrier qui est indicatif, hein, qui peut un petit peu bouger, et en se disant bon bah voilà, il nous faut à peu près, on est sur une mission de 3 à 6 mois par exemple, avec un consultant ou deux à disposition sur ce sujet qui vont être à mi-temps ou à temps plein. Ça dépend de la complexité de la mission, s'il faut être à temps plein sur le sujet ou à mi-temps, c'est-à-dire que ça va se transformer en 2 jours par semaine, voire certaines semaines 3 jours, sur le sujet. jusqu'à la deadline qui va être J plus 4 mois. Et à J plus 4 mois, il faut avoir défini cette stratégie. Et donc, entre le J0 et le J plus 4 mois, il va y avoir certaines étapes qui vont être inscrites dans le calendrier et qui vont souvent être des réunions des points de synchronisation, par exemple, ça va être assez régulier pour faire le point avec le client sur l'avancée de cette définition. Ça, c'est plus du suivi. Des temps forts d'ateliers, enfin bien souvent sous forme d'ateliers, éventuellement aussi d'entretien avec du coup par exemple le personnel. C'est là aussi où du coup les méthodes des sciences sociales sont utiles. Et c'est là aussi où effectivement je comprends, au travers de ce que nous disait Tanguy, que certains cabinets de conseil vont peut-être aller chercher dans ces missions-là, à l'appui effectivement d'entretien, etc., comment ça peut constituer une mission de R&D. Pour nous, c'est pas du tout... si ça n'a pas été... Si une mission se révèle être une mission de R&D, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve devant une incertitude à lever, un élément de connaissance nouveau à apporter qu'il va falloir défricher. Donc hop, c'est jamais encore arrivé, mais ça pourrait arriver. Ah ben tiens, en fait, là, on a besoin de faire de la R&D là-dessus. Et du coup, tout ce qui a été fait en amont ne compte pas. Et c'est à partir du moment où on se dit il faut qu'on développe de la connaissance là-dessus, on part en R&D. Ça n'est jamais arrivé, mais c'est vrai que ça pourrait. Enfin, ça n'est jamais arrivé, je suis là que depuis 2 ans. Voilà. Mais là, en l'espace de 2 ans, ça... et encore avant, c'est sûr que ça n'est jamais arrivé. Voilà, donc là, je me suis un petit peu perdue. Non, donc pour revenir à la méthodo, donc les entretiens, etc., même des focus group, ce qui va être appelé des ateliers pour co-construire, puisqu'il y a souvent quand même des démarches, des méthodos autour de la co-construction avec les acteurs, cette fameuse stratégie. Alors après, pour être plus concrète sur la stratégie, c'est vraiment... identifier en fait la finalité, quelles étapes il faut envisager pour arriver à telle ambition, telle finalité, quels acteurs, quelles pratiques nouvelles mettre en place. Je sais pas si ça vous aide un petit peu à y voir plus clair. Et donc ces temps forts d'ateliers, d'entretiens, etc., qui sont voués à définir, à co-construire cette stratégie et à arriver à la deadline et à la finalité de la mission, se prépare. Ça se prépare, donc ça aussi c'est du temps de travail, c'est-à-dire que ça se prépare dans l'animation, quelles questions on va poser, si c'est en atelier, s'il y a besoin de support, des supports. Les points de synchronisation, il y a besoin souvent d'un support de restitution pour visualiser, pour faire visualiser en fait et rassurer le client sur où on en est. Donc ça, c'est du travail aussi. Et à la fin, il y a de toute façon un support de restitution qui vise à finalement montrer où on est arrivé dans le cadre de cette mission, comment, pourquoi, quels choix ont été faits, pour faire une restitution finale qui constitue en fait à la fin presque un argumentaire pour justifier la stratégie définie.
C'est pas si éloigné de ce que vous faites en thèse avec la définition de la problématique, les retours avec vos encadrants, votre timing, pour vos manips, pour vos terrains et tout ça, donc avec des reportings réguliers, c'est a priori c'est à peu près la méthodologie est quand même assez similaire.
Oui, c'est des démarches assez similaires. Alors après petit point d'attention, par exemple, et qui d'ailleurs me fait encore raison de me dire que vraiment c'est quand même difficile de faire rentrer des missions terrain dans de la R&D, c'est que les entretiens en question, enfin, peut-être qu'en tant que doctorant et docteur, vous aurez peut-être des frustrations parce que soit connaisseur du sujet, soit juste par esprit critique, parce qu'on a quand même ça qui se développe beaucoup en thèse, vous aurez envie de poser peut-être les questions différemment ou de creuser plutôt tel aspect, parce que quand même on peut pas passer à côté de tel sujet. Et bien souvent quand même dans le timing qui est imparti, on n'a pas le temps. On est peut-être un petit peu plus brut de décoffrage que ce que vous souhaiteriez ou ce que vous auriez fait dans le cadre d'une recherche. Mais après, faut soit effectivement, même hors réflexion approfondie, ça se ça peut s'entendre en fait ce que vous auriez à défendre en termes de ben non en fait il faut absolument on peut pas passer à côté de tel sujet, telle question, etc. Donc ça se défend. Ou alors non, c'est parce que vraiment enfin d'un point de vue opérationnel ça apporterait pas ou ça on s'éloignerait trop du sujet ou on ferait peur aux clients ou aux acteurs qui seraient interviewés, etc. Donc voilà. Il y a un petit travail comme ça et peut-être une gestion de la frustration en tant que docteur ou doctorant qui peut être nécessaire.
Eh bien, merci. Alors, j'avais vu une... Il me semble que Mathilde, tout à l'heure, avait levé la main, mais la main est baissée. Donc, je ne sais pas si Mathilde... Avez-vous une question à poser ou est-ce que du coup on a répondu à votre question en discutant? N'hésitez pas, sinon j'ai une question dans le chat d'Arturo qui pose la question: dans le cas de votre cabinet, existe-t-il des restrictions concernant la ville où réside le doctorant? A priori, le conseil est quand même plutôt justement les cabinets de consultants en général, ils ont peut-être pas forcément de base, c'est plutôt ils sont chez le client.
Oui, voilà,
il n'y a pas de restriction.
De fait, l'activité, on est plutôt chez le client. Après, alors restriction, si vous faites quand même bien de poser la question, dans le sens où jusqu'à encore récemment, c'était quand même plutôt on ne pouvait pas habiter à plus de 2 heures du cabinet pour pouvoir se rendre chez le client si besoin. Enfin, voilà, du matin à l'après-midi, éventuellement être facilement mobile, puisque les clients sont majoritairement, en tout cas nous pour le cabinet, en région Île-de-France. Mais c'est plus le cas. Moi, par exemple, j'habite à Troyes. Je suis à 2h30, donc bon, je suis pas très. Enfin, en plus, je suis à 2h. 2h30, c'est parce que je me mets une petite marge. Donc, oui, je respecte encore cette règle, mais c'est plus le cas. Il y a des personnes là qui sont à 3-4 heures, dont même une personne qui est à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a le télétravail 3 jours par semaine. Ouais, c'est ça, télétravail 3 jours par semaine. Sachant que il y a des avenants, par exemple moi me concernant et d'autres qui habitent plus loin, on n'est pas soumis à cette obligation parce que ça, on peut pas venir 2 fois par semaine, quoi. Donc ou pas toujours. Donc moi par exemple je viens 1 fois par semaine. Voilà. Donc ça c'est pour un petit peu, même si on est chez le client, etc. Ben voilà, c'est vrai que Tending c'est un petit cabinet où on fait quand même collectif et qu'il y a cette idée de cette volonté de aussi s'échanger les pratiques, de davantage savoir ce sur quoi chacun travaille, à comme mission, à comme client, etc. Pour des fois aussi pas repartir de zéro quand on démarre une mission, parce qu'en fait on savait pas que quelqu'un d'autre avait une mission un peu similaire, etc. Voilà.
Voilà. Après, c'est vrai que les cabinets consultants sont peut-être plutôt situés en région parisienne, mais ils ont des bureaux un peu aussi partout, et puis il y en a d'autres un peu partout sur le territoire français. Donc ça répond, merci pour la question, ça répond la question, une partie de la question de Kelly sur le télétravail. Et il y avait une autre petite question de la part de Kelly sur le type de contrat se fait le recrutement. CDI, CDD, CDI, je suppose que c'est la question derrière sous-jacente. Contrat de mission ou contrat de projet, parce que maintenant il y a ces contrats de chantier, je ne sais plus quel est le terme.
Ce qui s'ouvre, c'est majoritairement des CDI. Les CDD, ça va plutôt concerner, de ce que j'ai déjà vu passer, des postes de chargé de communication, enfin autour de la communication, parce que là on a un petit cabinet, on a besoin d'évoluer là-dessus, mais en même temps on n'est pas en mesure d'avoir un CDI là-dessus. Ou après voilà, on va avoir des alternants, des stagiaires, mais c'est majoritairement des CDI en fait. Enfin c'est même, en fait j'ai pas envie de prendre le risque de dire exclusivement des CDI, mais il me semble que c'est exclusivement des CDI qui sont à pourvoir.
Merci. Alors, Opportun a de nouveau levé la main. Est-ce qu'on peut l'entendre cette fois-ci? Allô?
Allô, bonjour madame.
Bonjour.
Oui, bonjour. Vous entendez.
Désolé, tout à l'heure, je n'arrivais pas à activer mon...
Oui, oui, il y a eu un souci. C'est bon, okay. Allez-y.
En fait, ma question porte sur un terme que j'ai beaucoup entendu. Je ne sais si j'ai bien entendu ou mal entendu. J'entends depuis RRD.
R&D, en fait. Recherche et développement.
Ah, ok. Autant pour moi, alors. Merci.
Voilà. C'était tout ? D'accord.
Oui, c'était tout.
Très bien, merci. On a une question d'Alex qui demande, est-ce qu'il y a, une fois que la mission est terminée, est-ce que vos clients vous font des retours, justement, ou est-ce que vous organisez ce suivi à plus ou moins le long terme du travail réalisé et des préconisations que vous faites?
Alors oui, en fait, il y a plusieurs choses de fait, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que nous, on a une volonté d'amélioration et de suivi, notamment au regard de la mission par rapport à ce que aux impacts en fait du coup de l'entreprise, notamment aussi sur ses clients. Donc en fait, il y a un questionnaire qui est envoyé, bon, qui s'assimile à un questionnaire de satisfaction, hein, mais où se glissent aussi des questions un petit peu en termes d'impact, hein, bon, qui pourraient être améliorées, mais sur les effets en termes de perception sur certaines choses qu'aurait induit en fait le cabinet, voilà, des petites questions de ce genre. Donc il y a ce questionnaire-là qui est ensuite traité, analysé tous les ans, donc qui n'a pas un taux de réponse suffisant en fait. Hein, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu améliorer, stimuler. Il y a ce que nous on fait en interne, qu'on appelle les REX, retour sur expérience. Où voilà, on va organiser des déjeuners où en fait il va y avoir un retour d'expérience sur une mission. On va décrire la mission, comment ça s'est passé. Donc ça, c'est plutôt pour voir dans quelle mesure on peut soit améliorer les choses parce qu'il y a des difficultés de rencontrer, soit inspirer pour d'autres missions plus ou moins similaires en cours ou à venir, inspirer d'autres consultants, les directeurs, les associés qui sont à l'écoute de ces moments d'échange. Et ensuite... le suivi des préconisations, alors ça c'est un très très bon point. Bien souvent, si la mission s'arrête, en fait, y a une volonté d'aller plus loin, etc. Il peut y avoir éventuellement une proposition de suivi ou de mission supplémentaire, mais bon, si elle n'est pas acceptée, en fait, le suivi ne se fait pas. Il peut y avoir un suivi de manière indirecte parce que il va y avoir des reprises de contact par le cabinet auprès des clients pour savoir où ils en sont, quelles sont leurs problématiques en ce moment, etc. Donc, et s'il y a eu une mission précédemment, bah, bien sûr qu'ils vont en parler et prendre la température un petit peu sur ce qui a été fait. Moi, j'ai eu l'expérience d'une mission où j'ai mené toute la phase de diagnostic et de formulation des préconisations en atelier, et puis qui a été repris ensuite parce qu'il y avait moins besoin de l'angle sociologique que du coup j'avais mobilisé lors des méthodes de donc entretien, focus group, questionnaire, voilà, les méthodes appliquées. J'avais utilisé on avait été en recherche d'une lecture un peu plus approfondie, donc on m'avait mobilisé, et puis finalement ensuite la mission s'en est suivie avec une mise en œuvre, un accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations, mais qui n'a pas été exécuté par moi. Donc après, moi, quand je croisais les consultants qui étaient mis sur cette mission, bah, je leur demandais ce que ça donnait, etc., par curiosité et envie de savoir ce que donnaient les préconisations. Mais ouais, voilà ce que je peux dire sur cette question. Peut-être que j'oublie des choses.
C'est peut-être le côté frustrant aussi des choses, c'est de pas voir forcément la retombée au bout de quelques mois, quelques années du travail. Alors, on avait d'autres questions. Je reprends alors de Sacha qui est doctorant en chiffres en deep learning et qui aimerait savoir comment ses compétences de traitement de données IA peuvent être mises à profit dans les cabinets de conseil ou d'autres postes. Alors peut-être sur d'autres postes vraiment de R&D dans des entreprises spécialisées aussi en IA. Mais est-ce qu'au sein de cabinets de conseil, ces compétences-là peuvent être valorisées? Ces compétences et connaissances, pardon.
Oui, alors un grand oui. Voilà. Un grand oui parce que bah oui, c'est un grand sujet sur lequel les cabinets se mettent en termes d'accompagnement et du coup en termes eux aussi de montée en compétences sur ces sujets-là. Donc voilà, nous par exemple on n'a pas de poste spécifiquement ouvert sur ce sujet du coup, enfin qui nécessiterait une connaissance sur ce sujet, mais c'est pas exclu que ça arrive. Et parce que ouais, pour une montée en compétences en vue de mieux accompagner les clients ou d'intégrer alors nous on dirait sûrement de manière responsable en fait l'IA hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de d'enjeux de limites, enfin de en tout cas de points d'attention à avoir sur l'IA et donc l'idée ce serait d'accompagner, bon ça rejoint les sujets hein, que j'avais mis au-dessus, je sais plus, il y avait du digital, innovation. En fait, on peut accompagner les entreprises là-dessus, sur leur digitalisation, et notamment au niveau de l'IA. Et voilà, nous, notre enjeu, c'est d'être en cohérence avec notre positionnement sur la transformation responsable des organisations, des entreprises. Voilà. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a beaucoup... les cabinets, de manière générale, se mettent tous sur le sujet pour ne pas se faire aussi dépasser hein. Je pense que oui ça peut être vraiment valorisable.
Voilà, donc Sacha, vous avez votre réponse et vous savez, vous pouvez taper aux portes des cabinets de conseil. Voilà. Nous avons une question de Violaine qui se pose la question de comment vous recrutez les clients. Est-ce par exemple au sein de Tenzing des personnes qui sont dédiées justement à cette recherche de clients ou est-ce que c'est chaque chargé de conseil, consultant qui va faire sa prospection clientèle?
Alors il n'y a pas de prospection par les consultants. D'accord. C'est les associés et directeurs à qui incombe ce travail de prospection, en tout cas de contact avec les clients et des prospects.
Les prospects.
Donc, déjà présents et les prospects pour décrocher des missions. Ouais.
Donc il n'y a pas de travail de commercial et de marketing et de voilà. C'est après, le consulting.
Il y a quand même un travail de représentation de l'entreprise. Oui. Au travers des missions, bien sûr que si on est consultant et puis que le hasard fait que, j'en sais rien, parce qu'on a un copain, qui a un prospect là devant nous, mais en fait, j'ai même pas d'exemple concret de ce genre d'expérience, mais c'est bien sûr bienvenu que de mettre en fait de poursuivre l'échange et de mettre un associé ou un directeur en copie des échanges, enfin d'en parler avec l'associé et le directeur. Et puis de continuer de poursuivre l'échange avec les supports qui vont bien quoi.
Mais la prospection ne fait pas partie du métier de peut-être pour Tenzing. Dans d'autres cabinets, c'est peut-être pas forcément la même approche. Une question de Mathilde qui est a priori dans le domaine de la santé et qui se pose des questions, savoir s'il y a des sociétés de conseil qui sont spéciales par secteur et en particulier dans le domaine des sciences et de la santé. Voilà. Parce que là, c'est vrai que c'est des missions plutôt sociologie qui sont abordées, mais est-ce qu'il y aurait des missions ou des cabinets de conseil spécialisés, dans en particulier sciences et santé?
Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que oui. Mais j'ai pas de nom en tête et j'ai pas...
Moi non plus, j'en ai pas, mais certainement que oui, c'est pas les questionnements, les ne se focalisent pas que sur les sciences sociales. Il peut y avoir aussi des questions techniques ou de voilà.
C'est une question dans le sens santé et sciences du vivant et non pas. Je sais pas comment catégoriser les autres sciences que les sciences sociales parce que les sciences sociales sont des sciences. J'aime pas trop la distinction sciences dures, sciences molles.
Oui.
Les sciences sociales sont aussi des sciences du vivant d'un sens, parce qu'on étudie l'humain, qui est un être vivant. Donc bon, est-ce que c'est dans ce sens que la question est posée
Je pense qu'on est plutôt sur de la, alors sauf si Mathilde peut prendre la parole, mais sur des questions de sciences plutôt au sens biologie du terme, sciences du vivant mais biologique, parce que comme elle veut se reconvertir dans l'industrie pharmaceutique, voilà, je pense que l'expérience est plutôt biologique.
Voilà, moi j'ai fait du coup une thèse en neurosciences, voilà, à côté d'accord. de ma thèse en pharmacie. Mais j'avoue que j'ai plutôt trouvé des offres de consulting qui dépendaient, en fait, et on m'a déjà refusé d'ailleurs, c'était plutôt un visé sciences sociales, en fait. Voilà, et c'était de la recherche pour le coup.
Je connais pas. Nous, après, voilà, on a des sujets là qui s'ouvrent sur les liens entre santé et environnement. Que ce soit côté recherche ou éventuellement côté mission, mais c'est vraiment... Donc on peut aborder ces questions-là, mais effectivement plutôt du point de vue des sciences sociales. Ouais.
Voilà, désolée Mathilde, moi-même j'ai pas en tête des... Après je pense que c'est une question qu'on peut creuser, qu'il faut creuser. Voilà. Est-ce qu'il existe déjà un annuaire des cabinets de conseil? Peut-être.
Bonne question.
Voilà. Nous avons dépassé 18h, donc on arrive vers la fin. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Guillaume nous a quittés normalement, donc il nous souhaite une bonne soirée. Merci Guillaume aussi, s'il est toujours là pour cet échange sur son retour d'expérience, son Rex, justement, sur les... Voilà. Et question pour Mélanie, est-ce qu'on pourra avoir du coup la présentation et que je pourrais vous diffuser par la suite?
Oui, voilà. Et oui, vous verrez aussi peut-être d'autres choses qu'on n'a pas abordées. Oui, il y avait une slide sur le savoir-faire, savoir-être. Bon, je pense qu'on les a balayées en fait.
Un petit peu, oui, balayées, voilà. On a aussi une main levée de la part de Lorraine. Donc si Lorraine voulait prendre la parole.
Oui, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je vais faire vite du coup parce que j'ai bien compris que le temps était dépassé, mais ma question a été sautée. Donc
d'accord.
Non, mais je vous en prie.
Dans le chat. Okay.
Voilà, moi je suis donc enseignante dans le supérieur, hein, bientôt docteur en design. J'étais effectivement intéressée par le cadre du consulting. Simplement, là, il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'économie a annoncé qu'ils allaient probablement baisser les financements CIR. Donc, quel impact, selon vous, ça pourrait avoir justement sur un métier comme le vôtre? Est-ce que vous pensez que du coup, on va recruter moins, par effet boule de neige, moins de chercheurs dans les cabinets de consulting?
Alors, si je m'en tiens au témoignage de Tanguy, j'ai envie de dire que oui. Nous, chez Tenzing, ça ne va rien changer parce que vraiment, le CIR, c'est un plus, mais s'il n'est pas là... Enfin, c'est un plus, c'est-à-dire qu'on va pas s'en passer s'il existe et si on y a droit et qu'on est éligible. L'idée de développer l'activité de recherche au sein du cabinet n'a pas été pensée en fonction du CIR. Donc en fait, s'il y a un besoin de recrutement à un moment donné, ça veut dire que l'R&D se développe, a des besoins, qu'elle conduit effectivement au développement effectif de savoir-faire et de savoir. Utile pour les missions ou utile pour développer, enfin enclencher d'autres missions et notamment des missions de recherche. Donc du coup voilà, CIR ou pas CIR, non, ça ne gêne pas. Après, de manière plus générale, du coup, si je m'en tiens au témoignage de Tanguy, effectivement ça risque de limiter. Après, bon, si de toute façon c'est pour éviter de tomber dans des structures qui profitèrent un peu du CIR de manière plus ou moins frauduleuse, bon bah à la limite tant mieux pour le docteur, hein. Voilà. Et après, moi, quand j'ai quand même creusé cet élément-là, parce que effectivement j'ai vu que c'était un des premiers, enfin c'était le premier exemple typique qui ressortait dans ce qui allait être diminué en termes de financement. J'ai vu que ça concernait d'autant plus les grandes entreprises en fait. Donc après voilà, à voir aussi selon la taille du cabinet. Voilà, les PME, enfin et justement la critique qui était faite, c'était que ça servait vraiment le CIR quand même aux PME pour se développer, pour se développer en fait, puisque bon, on est quand même dans un paradigme où l'innovation, la R&D sert à la pérennité et à la croissance de l'entreprise et à son développement. Alors son développement exponentiel ou sa diversification, enfin voilà.
Sa transition aussi, on parle beaucoup de transition. Donc.
Et nous en plus, Tenzing, on est vraiment là-dessus, la transition et la transition des métiers critiques et des organisations particulièrement critiques. Voilà, les PME, peut-être qu'il y aura un différentiel de fait entre les PME et les grandes entreprises, notamment, parce qu'a priori, c'est quand même les grandes entreprises qui étaient ciblées comme étant, comme ayant des pratiques un petit peu douteuses. Et par contre, j'en profite, comme je vous ai entendu parler de design, pour préciser que chez Tenzing, on a une activité voilà qui est menée en fait par justement des designers qui s'appelle Prism, Tenzing Prism, et qui du coup se fonde il y a 3-4 consultants qui sont designers et qui sont docteurs ou pas et qui du coup fondent leur approche sur les méthodes du design.
Merci beaucoup pour cette information et vous avez bien répondu à ma question, donc merci.
Avec plaisir.
Alors, on a de nouveau, est-ce qu'on a une dernière question? Oui, on vous tiendra au courant si on fait intervenir Tanguy maintenant. Voilà, c'est ça aussi le rebond, hein, c'est ça aussi c'est rebondir et faire des opportunités. Merci si Tanguy peut, voilà, on verra selon les disponibilités, bien sûr. Alors, Kelly, je ne sais pas quelle université vous êtes, parce que là, voilà, comme j'ai dit en préambule, normalement les DigiDoctalks, on les organise pour les doctorants du site Lyon-Saint-Étienne, mais là on l'a ouvert. Tenzing nous a autorisé à l'ouvrir à d'autres universités, dont celle de Lille. Donc on refera une séance, bien entendu, si c'est possible. Voilà. On arrive à maintenant à bien se coordonner avec les autres collèges doctoraux et si voilà, vous avez d'autres, il me semble jusqu'au 15, il y a plein d'autres justement témoignages de docteurs dans le privé, de docteurs en ingénierie qui devraient bientôt arriver soit par l'université Bourgogne-Franche-Comté ou l'université Grenoble-Alpes. Voilà. Donc en tout cas, merci Mélanie pour ces échanges, pour voilà cet éclairage, pour peut-être aussi donner des petites informations. Je sais que sur Lyon on l'a tenté, mais on peut peut-être le remettre aussi au goût du jour. Il faut voir aussi auprès de dans vos universités, dans vos établissements, s'il n'y a pas le dispositif doctorant conseil qui est mis en place. Justement, c'est ça rentre dans les valorisations comme la valorisation de l'enseignement ou valorisation sur la médiation scientifique. Il peut y avoir des compléments sur tout ce qui est innovation et conseil au travers du dispositif doctorant conseil, donc c'est des missions, voilà, pour aussi vous tester dans cette posture de conseil, des missions qui sont proposées à des doctorants, alors plutôt des groupes de doctorants par des entreprises qui voilà. Donc, renseignez-vous dans votre dans vos établissements s'il n'y a pas ce dispositif doctorant en conseil ou docteur en conseil ou peut-être junior entreprise, ça dépend des termes. Il y a aussi qui peuvent être voilà sur lesquels vous pouvez vous positionner, qui vous valorise des heures aussi de formation, mais également peut vous apporter des compléments de formation et d'expérience. Voilà.
Je vois qu'il y a une réaction de Léonard Collin sur la deuxième mission sur l'inclusion.
Voilà, si vous pouvez éventuellement très rapidement nous en parler. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est une mission qui est développée que vous avez pas. J'ai pas lu, c'était peut-être dans le PowerPoint, c'est ça?
Est-ce que c'est une offre que vous avez vue en scannant le QR code? Ou... Ah non, c'est peut-être une mission.
Non. Je sais pas, Léonard, est-ce que. Non, c'était dans le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez préciser, du coup, à quel niveau c'était? Ou est-ce que c'était dans le cadre de... Vous pouvez prendre la parole.
Ah oui, je vois Keolis.
Ah, ouais.
Désolé, là où je suis, il y a vraiment trop de bruit, donc c'est pourquoi j'écris dans le D'accord. chat.
Mais... c'était l'expérience Keolis, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Belle, ouais. Je crois que c'était Belle.
Ah oui.
Oh, voilà.
Oui.
Bell for all. Yeah.
Oui, en fait, c'était pour mettre en évidence les compétences finalement sur lesquelles on, sur ce type de mission par exemple, mais c'est un exemple, mais il y en a d'autres. On est les compétences qui sont qu'il faut avoir développées sont les suivantes. Donc l'expression orale écrite, le bon relationnel, une relative autonomie. Capacité analytique et de synthèse, animation d'une communauté, pilotage de projets transverses, capacité d'écoute, esprit critique, rigueur et résilience. Donc c'est aussi pour montrer qu'en fait, bon, vous voyez bien qu'en thèse, voilà, un bon nombre de ces compétences sont a priori développées au travers de l'expérience professionnelle que reste la thèse, quoi. Après, voilà, je sais pas si je réponds à la question.
Après, Mélanie n'était peut-être pas sur ce dossier-là, donc peut-être pas aller plus loin que, voilà, sur le...
J'étais pas sur cette question-là.
Voilà, donc elle va peut-être pas pouvoir répondre sur c'est ce qu'est, en quoi consistait la mission. Voilà, désolée. Mais c'est tellement varié comme mission. Et c'est tout l'intérêt, oui, c'est que vous passez d'une mission à une autre, voilà.
Ouais. Bah c'est voilà, les sujets sont variés, c'est aussi pour ça. Mais en fait, c'est aussi pour montrer qu'on peut pas être expert hein, de tous les sujets. Donc les compétences en fait sur lesquelles s'appuie ce métier sont très relationnelles et sont très relationnelles finalement. Et voilà, la capacité d'analyse, de synthèse, de cadrage, de documentation. Effectivement, il y a un temps d'appropriation du sujet, de collecte de documents, de points de vue, au travers d'entretiens ou pas. Tout ça, c'est co-défini au moment de l'organisation de la mission. Et c'est là qu'en fait, on va acquérir, alors du coup, sur un temps beaucoup plus réduit que la thèse, c'est-à-dire en l'espace d'un ou deux mois selon les missions, hein. Une matière, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de s'approprier le minimum de connaissances requis pour avancer et voilà.
Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que là on pourrait y passer la soirée, je pense que le sujet est tellement vaste. Mais j'ai retenu voilà que éventuellement le témoignage de Tanguy pour aller un petit peu plus loin. Alors. Une dernière main levée, donc Violaine, et puis je pense que ça sera la dernière question. Allez-y, Violaine. Allô? Violaine? Ah, problème de micro. Vous pouvez l'écrire à ce moment-là. Je me ferai votre porte-parole. Dans le chat. Pas de souci. Bah oui, dans le chat, oui. Allez-y. J'attends que vous y ayez. En tout cas, ça éclaircit Mathilde sur ce qu'est le conseil. Est-ce qu'il est possible dans ce parcours d'avoir des périodes sans mission?
Oui, en fait. Alors bon, tant pis, je vais m'avancer un peu. Il me semble
d'avoir plusieurs missions en même temps.
Alors oui, parce que par exemple, on peut être à mi-temps sur une mission, donc c'est-à-dire 2 à 3 jours sur une mission par semaine, et puis finalement, du coup, 2 jours sur une autre mission. Donc on peut organiser son temps sur 2 missions, peut-être voire 3, mais ça c'est plus déjà quand on monte en... Si on est manager, ben voilà, on va manager plusieurs missions finalement. Mais en tant que consultant, ouais, 2 à 3 missions maxi, hein. Je pense que 3 c'est rare. Et il y a des temps sans mission effectivement qui contribuent, bah, où en fait là on va contribuer, bah, notamment par rapport à la mission de Tenzing, bah, sur des réflexions, différentes tâches en fait qui contribuent à la mission de Tenzing ou aux actions que Tenzing mène auprès des associations aussi de mécénat, d'accompagnement. Un certain nombre de consultants qui bossent là-dessus quand ils ont des temps morts. Je crois que 70% en fait ils sont staffés, donc ça c'est un terme de bon, il me semble, hein, du coup du monde du conseil, hein, exclusivement, mais ils sont un consultant est staffé à 70% sur l'année, donc il y a 30% de son temps où il n'est pas staffé et où il contribue au cabinet en moyenne. C'est peut-être un chiffre, il me semble que c'est un chiffre que j'ai retenu là, qui a été en plus cité il n'y a pas longtemps et que j'ai retenu comme tel, peut-être qu'il est un petit peu faussé, mais il me semble que c'était ça le chiffre.
Voilà, donc il y a toujours de quoi faire, voilà.
Oui, oui.
Très bien. Donc là, on arrive à 18h30. C'était la dernière question. Je vous remercie de votre présence. Je remercie vivement Mélanie de son témoignage. Et puis, bah, écoutez, on se donne peut-être rendez-vous pour une prochaine édition, peut-être. Merci sur d'autres, voilà, d'autres sujets. Merci à vous.
J'espère.
Et très bonne soirée.
Répondu aux attentes.
Bien. Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Pas de souci, on va faire en sorte que vous le receviez. Voilà. Je sais pas par quel biais, mais j'ai la liste de toute façon normalement des présents, donc vous devrez recevoir. Voilà. Je vous dis peut-être pas demain, mais d'ici ces prochains jours. Pas de souci.
Je vous l'envoie là dans la foulée de toute
façon. Eh ben parfait. Merci bien.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.